en mettant en œuvre les moyens appropriés dont faisait nécessairement partie également la violence. Dans cette vision des choses, le discours relatif à Dieu ne faisait partie ni du domaine de la pratique, ni de celui de la réalité. Il fallait l'ajourner, s'il le faut, jusqu'au moment où le plus important aurait été fait. Il restait la figure de Jésus, mais qui n'apparaissait plus alors comme le Christ, mais comme l'incarnation de tous les souffrants et de tous les opprimés, et comme leur voix qui appelait au bouleversement, au grand changement. Ce qui était nouveau dans tout cela, c'est que le programme de changement du monde, qui chez Marx n'est pas pensé seulement de façon athée, mais également de façon anti-religieuse, se trouvait empli maintenant d'une passion religieuse et s'appuyait sur les fondements religieux, une lecture nouvelle de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, et une liturgie célébrée comme l'anticipation symbolique de la Révolution et comme une préparation à celle-ci. Il faut le reconnaître. Avec cette synthèse singulière, le christianisme était redevenu présent de façon publique dans le monde, et il avait retrouvé une pertinence. Il n'est pas étonnant que les États socialistes aient manifesté leur sympathie pour ce mouvement. Il est plus remarquable que dans les pays catholiques, la théologie de la libération a été l'enfant chéri de l'opinion publique, qu'il ne fallait pas contredire, sous peine de péché contre l'humain et contre l'humanité, même si on n'entendait pas, naturellement, que ces directives pratiques soient mises à l'épreuve dans son propre monde, puisqu'on considérait qu'on y était déjà parvenu à une ordonnance juste de la société. On ne peut pas nier que dans les différentes théologies de la libération, il existait également de nombreuses intuitions qui méritent réellement la réflexion. Mais toutes ces visions durent s'effacer en tant que figure d'une synthèse entre la réalité chrétienne et le monde inaugurant une époque nouvelle, au moment où la croyance en la politique comme une puissance de salut s'effondra. Il est vrai que, comme le dit Aristote, l'homme est un être politique, mais il ne doit pas être réduit à la politique et à l'économie. Je vois le problème véritable et le plus profond de la théologie politique dans le fait que l'idée de Dieu disparaît dans les faits, ce qui naturellement a modifié également de façon fondamentale la figure du Christ, comme on l'a déjà indiqué. Ce n'est pas qu'on aurait nié Dieu, dans aucun cas, mais tout simplement on n'avait pas besoin de lui pour la réalité vers laquelle il fallait se tourner. Il était sans fonction. On est conduit alors soudain à se poser la question : était-ce le cas seulement dans la théologie de la libération ? Ou n'aurait-on abouti à cette manière de considérer la question de Dieu comme sans pertinence pratique pour entreprendre la nécessaire transformation du monde que parce que le christianisme pensait ainsi dans une large mesure, ou plutôt vivait ainsi, sans y réfléchir et sans s'en rendre compte. La conscience chrétienne n'a-t-elle pas pris son parti dans une large mesure, sans s'en rendre compte, de ce que la foi en Dieu soit quelque chose de subjectif, qu'elle relève de la sphère privée et qu'elle n'ait pas sa place dans les activités communes de la vie publique, dans lesquelles, pour pouvoir travailler ensemble, il fallait donc s'installer, etsi deus non daretur, pour le cas où Dieu n'existerait pas. Ne devait-on pas trouver une voie qui soit valable également pour le cas où Dieu n'existerait pas? Il en résultait au fond, tout naturellement, que lorsque la foi sortait de l'espace intérieur, de ce qui relève de l'Église pour passer dans l'espace public et universel, il n'était pas possible d'assigner une fonction à Dieu et qu'on le laisse où il était, dans le domaine privé, dans la sphère intime qui ne regarde personne. C'est pourquoi il n'a fallu aucune négligence particulière et surtout aucune négation délibérée pour que Dieu soit laissé sans fonction, d'autant qu'on avait bien souvent abusé de son nom. Mais la foi ne serait réellement sortie de son ghetto que si elle avait emporté avec elle dans l'espace public ce qui est réellement son bien propre, le Dieu qui juge et qui souffre, le Dieu qui nous pose des limites et nous donne des critères, le Dieu de qui nous venons et vers qui nous allons. Mais telle que les choses se sont passées, elle resta davantage encore dans le ghetto de l'absence de fonction. Or Dieu est pratique. Il n'est pas seulement une sorte d'achèvement théorique de l'image du monde avec lequel on se console, auquel on s'attache, ou devant lequel on passe, tout simplement. Nous voyons cela aujourd'hui partout où sa négation consciente est allée jusqu'au bout, et où son absence n'est plus atténuée par rien. Tout d'abord, en effet, là où l'on omet Dieu, tout paraît continuer comme auparavant. Des décisions fondamentales qui ont été prises, des formes fondamentales de la vie demeurent, même si elles ont perdu ce qui les justifiait. Mais lorsque, comme le montre Nietzsche, le message de la mort de Dieu est entendu réellement et qu'il touche les hommes dans leur cœur, tout devient différent. On le voit aujourd'hui pour une part dans la manière dont on traite la vie humaine dans les sciences, où l'être humain devient tout naturellement un objet technique et disparaît de plus en plus en tant qu'être humain. Lorsqu'on cultive techniquement des embryons pour avoir du matériel de recherche et constituer des réserves d'organes destinés à servir ensuite à d'autres humains, il n'y a déjà plus guère de cris d'effroi. Le progrès exige tout cela, et ses buts sont nobles, bien sûr. Améliorer la qualité de vie des hommes, de ceux, en tout cas, qui peuvent se permettre de recourir à de tels services. Mais si l'homme, dans son origine et dans ses racines, n'est pour lui-même qu'un objet, s'il est produit et qu'il est sélectionné dans cette production en fonction de souhait ou de l'utilité, qu'est-ce que l'homme doit réellement penser encore de l'homme? Comment se comporter à son égard? Quelle sera l'attitude de l'homme vis-à-vis de l'homme s'il ne peut plus rien trouver dans l'autre du mystère divin, mais seulement encore son propre pouvoir-faire? Ce qui apparaît ici dans les zones élevées de la science a son reflet partout où, sous toutes les latitudes, on est parvenu à arracher Dieu du cœur des hommes. Il existe aujourd'hui des zones franches du trafic des êtres humains, de la consommation cynique de l'être humain, face auxquelles la société se trouve sans armes. D'Albanie, par exemple, des syndicats criminels livrent de façon continue des femmes abusées sur les rivages du pays qui lui fait face pour qu'elles s'y prostituent, et parce qu'il existe là suffisamment de cyniques qui attendent cette marchandise. Les organisations criminelles deviennent plus puissantes, et la défense doit constater que l'hydre du mal voit repousser continuellement de nouvelles têtes, quel que soit le nombre de celles qu'on parvient à couper. Et ne voyons-nous pas tout autour de nous, dans un environnement apparemment entièrement ordonné, la progression d'une violence qui devient de plus en plus naturelle et effrénée? Je ne veux pas prolonger davantage le scénario de l'épouvante, mais nous devrions nous mettre à réfléchir et nous demander si ce n'est pas Dieu malgré tout qui est la réalité véritable, le présupposé fondamental de tout réalisme, de sorte que sans lui, rien ne demeure sauf. Revenons à ce qu'a été le développement historique depuis 1967. L'année 1989, je l'ai dit, n'a pas apporté de nouvelles réponses. Elle a accru plutôt la perplexité et nourri le scepticisme vis-à-vis des grands idéaux. Mais quelque chose s'est passé malgré tout. La religion est redevenue moderne. On n'attend plus sa disparition. Au contraire, elle foisonne sous diverses formes nouvelles. Dans la solitude de plomb d'un monde vide de Dieu, dans son ennui intérieur, la quête d'une mystique, d'un contact quel qu'il soit avec le divin, s'est manifestée à nouveau. Un peu partout, il est question de visions et de messages venus de l'autre monde. Et partout où l'on entend le mot « apparition », des milliers de personnes se mettent en route pour découvrir peut-être malgré tout une fente dans le monde par laquelle le ciel les regarde et leur apporte une consolation. On se plaint de ce que la nouvelle quête de religion passe largement à côté des églises chrétiennes traditionnelles. L'institution dérange et le dogme dérange. On recherche quelque chose à vivre, l'expérience de toute autre chose. Je n'acquiescerai pas entièrement à cette plainte. Aux grandes journées mondiales de la jeunesse, comme aux dernières à Paris, la foi devient...